Comme tout bon locataire ou propriétaire, protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Angine, rhume, laryngite, sinusite, mal de gorge, nez qui coule, oreilles douloureuses. Ces affections de la sphère ORL sont fréquentes, notamment dans la petite enfance. Mais pour autant, nous n'avons pas toujours les bons réflexes pour y faire face. La méconnaissance sur l'origine de ces infections peut conduire à prendre des traitements inappropriés. Et le caractère bénin de certaines de ces maladies ORL va pousser certains à opter pour l'automédication, avec à la clé des erreurs de diagnostic et des complications évitables. Complications qui, pour certaines de ces maladies, peuvent se révéler dangereuses pour les personnes les plus vulnérables. Au cours de cette émission, nous allons donc parler des symptômes et des bons gestes pour limiter la transmission des virus ou des bactéries, hygiène, aération, des conseils pour éviter les confusions entre une angine virale et une angine bactérienne. Nous essaierons de répondre à toutes vos questions sur ces maladies de la sphère ORL et pour cela, appelez-nous 33 84 22 75 75. Affection oto-rhino-laryngologique, oreille, nez, sinus, gorge, cou et glandes salivaires. Prévention, diagnostic et traitement avec nous en studio. Docteur Gérald Fin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien ORL à Paris. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne d'Abidjan le professeur Marie-Josée Tanoano, chef de service ORL et ambulatoire pédiatrique à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville en Côte d'Ivoire et présidente de la société ivoirienne d'ORL. Et vous retrouverez en fin d'émission le docteur Catherine Solano, sexologue, qui répondra à des questions d'auditeurs. Si vous avez envie d'adresser des messages au docteur Solano, bien sûr, pour lui poser toutes vos questions, laissez-nous votre message sur la page Facebook de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Gérald Fin, les maladies dont on parle aujourd'hui, elles touchent à plusieurs de nos sens, hein, l'audition, le goût, l'odorat. Alors, même si des fois c'est pas très très grave, on dit que ce sont des affections bénignes, ça peut avoir un véritable impact sur la qualité de vie.
Bien sûr, les affections, on parle en ce moment donc du nez, peuvent retentir. D'abord, on est enrhumé en permanence par devant et par derrière, donc les gens se mouchent ou raclent la gorge, ou ils ont des troubles effectivement olfactifs qui peuvent être une diminution de l'olfaction ou une anosmie, une perte complète de l'olfaction et du goût. Il faut savoir que l'olfaction et le goût sont deux choses différentes. Le goût, c'est la langue, salé, sucré, amer, acide, umami, qui est une saveur neutre. Et l'olfaction, on sent les aliments, on sent les choses devant. Et quand on avale, on sent derrière les aliments stimulent la zone olfactive en rétro-nasal, ce qu'on appelle la flaveur.
Alors, des affections qui touchent aussi la zone de l'audition, d'où cette question, docteur Gérald Fin, comment est-ce que l'on entend ?
Eh ben, on entend l'onde sonore, c'est, d'abord on entend et on écoute. Entendre, c'est l'oreille. L'oreille, c'est une onde sonore, c'est une vibration d'air transmise par le tympan et les osselets, qui est transmise après en électricité dans l'oreille interne qui s'appelle la cochlée. Et cette électricité va au cerveau par le nerf auditif. Donc, on a l'organe qui permet d'entendre et la compréhension, c'est le cerveau.
Alors, le médecin aussi, qui soigne des troubles bien particuliers, il s'agit des vertiges, c'est aussi l'ORL, c'est bien cette spécialité qui prend en charge ce problème. Docteur Gérald Fin, d'où viennent les vertiges et comment est-ce que l'on retrouve l'équilibre ?
Les vertiges, c'est plus complexe. On a 6 capteurs de l'équilibre, contrairement aux organes du corps humain. On a 6 capteurs, on a l'œil droit, l'œil gauche, qui permet de savoir où on est dans l'espace. On a l'oreille interne qui permet, lorsqu'on bouge la tête, de savoir où on est dans l'espace, c'est l'accélération du corps. Et on a la peau, les muscles, les tendons qui permettent de localiser si on ferme les yeux, si on bouge pas, où on est dans l'espace. Et on a le cervelet derrière le cerveau, qui est le petit cerveau, qui est l'ordinateur qui commande tout ce système. Chaque organe va stimuler son voisin. Et il suffit qu'il y ait un des 6 qui ne fonctionne pas pour que le cervelet reçoive un mauvais message et pour qu'il envoie des signes de malaise. Ça tourne, j'ai envie de vomir, je me sens pas bien, j'ai des transpirations, j'ai des diarrhées. Les diagnostics de vertiges sont relativement simples et on améliore quasiment tous les vertiges. Les vertiges les plus compliqués à améliorer sont les instabilités chez le sujet âgé, qui sont souvent des troubles de la sensibilité musculaire et des tendons, qui se rééduquent chez des rééducateurs particuliers qu'on appelle des rééducateurs vestibulaires.
Alors, justement, vous disiez, j'ai la nausée. Certains vont jusqu'à avoir de véritables nausées. Ils pensent aussi à des problèmes digestifs associés. C'est quoi le lien entre ces vertiges et ce malaise, ce mal-être?
Les vertiges, puisque le cervelet ne reçoit pas un bon message, il va envoyer au tronc cérébral, qui est un organe très particulier du cerveau, un mauvais message. Et le tronc cérébral va traduire ce malaise par des nausées, des vomissements. La pièce qui tourne, c'est tout simplement l'œil qui bouge. Quand vous avez un vertige, vous avez votre œil qui a ce qu'on appelle un nystagmus, l'œil y bat. Et c'est ce mouvement des yeux qui fait qu'on a l'impression que ça tourne.
Avec des maladies qui sont pas très connues, hein, la névrite vestibulaire, c'est quelque chose de spécial. Ça peut être très incommodant, mais on peut dire qu'au final, ce n'est pas très très grave, c'est ça?
Les névrites, alors 10% des patients ont un jour ou l'autre un vertige. La névrite vestibulaire, c'est 5% des patients. C'est un accident aigu qui est, on a l'impression que c'est la fin du monde. Et ça s'améliore spontanément avec des médicaments. On fait une IRM, bien sûr, pour vérifier une tumeur, s'il n'y a pas une tumeur derrière. Et on rééduque le cervelet par de la rééducation vestibulaire. Et en un mois, on retrouve une vie normale.
Alors, d'autres affections, hein, pharyngite, laryngite. Là, quand on présente une émission de radio, c'est vraiment pas quelque chose de bon. Je pense que c'est un des seuls cas où carrément on ne peut pas travailler. Ça rend aphone, ça affecte la voix. Bah, on dit, dans le langage courant, j'ai perdu la voix. Comment est-ce que ça se produit, docteur Fin?
C'est très simple à comprendre, puisqu'un rhume, on en a parlé tout à l'heure, soit on mouche par devant, soit on mouche par derrière. Quand vous mouchez derrière, les mucosités, ce qu'on appelle un mouchage postérieur, vont tomber sur les cordes vocales qui sont situées derrière la paume d'Adam. Les cordes vocales sont horizontales, elles font 2 cm, elles sont blanches comme une feuille de papier. Et quand vous avez ces mucosités, ben vous faites vous raclez votre gorge et ça vous casse la voix, car les cordes vocales ont du mal à vibrer, encombrées par ces mucosités.
Alors, comment est-ce que ça se fait, on va le voir tout à l'heure, je pense, avec les questions des auditeurs, que les enfants, beaucoup de parents qui nous appellent, pourquoi les enfants sont particulièrement vulnérables à ces affections de la sphère ORL?
D'abord parce que les enfants, les petits nourrissons, les petits bébés sont souvent couchés que debout, et ils sont sensibles aux symptômes parce qu'ils ne sont pas capables de se moucher, ils ne sont pas capables d'évacuer leurs sécrétions comme on fait nous, l'adulte, en crachant. Et les pathologies chez l'enfant sont toujours un petit peu les mêmes. Elle se résume à le reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire l'acidité qui remonte de l'estomac, et des phénomènes allergiques qui touchent dans le monde une personne sur deux.
Est-ce que vous diriez que, particulièrement pour votre spécialité, pour l'ORL, docteur Gérald Fin, il y a trop d'auto-diagnostic et trop d'auto-médication, ou finalement, comme ce sont des affections tous les jours, bah c'est un petit peu normal?
L'absence de médecins, la diminution des médecins fait que les patients s'auto-traitent et s'auto-diagnostiquent. Simplement, il y a beaucoup de mauvais diagnostics. Il y a beaucoup de gens qui parlent de sinusite alors qu'il n'y a pas de sinusite. Un mal de ventre, c'est pas une appendicite. J'ai mal à la tête, c'est pas forcément une sinusite.
Et justement, comment est-ce que les gens peuvent réussir à identifier mieux tel ou tel problème? C'est pas possible chez soi, il faut vraiment aller voir un médecin pour ces choses-là?
C'est tout à fait possible chez soi, puisque la majorité des causes, c'est les causes, on parle du nez à ce moment-là, ce sont les causes des gens allergiques. L'allergie est une maladie génétique familiale, c'est l'asthme, c'est l'urticaire, l'eczéma, c'est les éternuements, le nez bouché. Donc si on a dans sa famille quelqu'un d'allergique, on sait forcément qu'on est probablement allergique. Donc on peut effectivement s'automédiquer par des antihistaminiques. En France, il y en a que très peu qui sont en automédication, comme la claritine ou le Virlix, le Zyrtec. D'autres sont sous ordonnance. On peut déjà commencer par prendre des antihistaminiques.
Mais la base, c'est bien de comprendre quel est l'agent pathogène qui est à l'origine de cette affection ORL. Allergène, virus, bactéries, en fonction, le traitement va changer.
Bien sûr. Alors ça s'appelle l'éducation thérapeutique. On peut former nos patients. Moi, je forme à mon cabinet mes patients que je traite beaucoup à distance. C'est le rôle du médecin de former son patient pour lui donner les éléments de décision.
Mais est-ce qu'il y a malgré tout, vous diriez, certains symptômes, là, qui ne doivent pas laisser place ni au doute, ni justement à cette automédication? Et quand il y a des cas particuliers dans cette sphère ORL, tout de suite aller consulter?
On consulte quand on a des signes qui ne semblent pas normaux. Une hyperfébrilité chez un enfant, une hyperfébrilité chez un adulte, des symptômes de fatigue importante, de douleur importante. D'accord, mais on peut au départ effectivement s'automédiquer avec des antalgiques classiques ou des antihistaminiques et on voit l'évolution. Simplement, souvent les gens consultent par inquiétude, ils ont besoin d'être pris en charge, ce qu'on comprend très bien, car ils pensent que le médecin connaît mieux qu'eux, ce qui est possible. Simplement, notre rôle, c'est d'éduquer nos patients.
On va passer justement à des cas concrets, docteur Gérald Fin. On prend en ligne tout de suite les auditeurs et auditrices de Priorité Santé.
Priorité santé, sur RFI.
Premier appel de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Julia Britney en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Le docteur Fin est à votre écoute, allez-y.
Oui, bonjour docteur Gérald Fin. Moi, je souffre plus d'une rhinite allergique. C'est depuis 2007-2008 que j'ai constaté cela. Et puis, quand je suis enrhumée, j'ai souvent mal à la tête et aux yeux. Souvent, quand j'ai mes mouches, j'ai des glandes lacrymales qui s'évacuent. J'aimerais demander quels sont les remèdes pour réparer complètement cette maladie. Et puis, est-ce qu'il y a une différence entre une rhinite chronique et une sinusite chronique?
Vous dites rhinite allergique, Julia Britney. Est-ce que ça veut dire que vous prenez des traitements dont on a parlé à l'instant avec le docteur Fin, des antihistaminiques justement quand les symptômes se déclarent?
Oui, je prends des antihistaminiques souvent.
Alors, sur cette question de Julia Britney, docteur Fin, différence entre sinusite chronique et rhinite allergique?
Alors, une rhinite allergique, c'est un symptôme qui se situe au niveau du nez. Une personne sur deux dans le monde, c'est une hormone qu'on appelle histamine qui est hyper sécrétée au contact de notre environnement. L'environnement, c'est multifactoriel, c'est l'air qu'on respire, les aliments qu'on mange, les vêtements qu'on porte, l'émotion, l'effort qu'on produit, qu'on ressent. Les tests servent pas grand-chose. Les seuls tests intéressants, c'est parfois les intolérances alimentaires. Donc le rôle de l'ORL, c'est de trouver l'antihistaminique qui marche pour chaque patient. Il y en a une cinquantaine. Il faut savoir que quand on est allergique, soit on prend les antihistaminiques à la demande, soit de manière permanente, ce qui est plus logique. Britney nous décrit des douleurs de blocage, c'est-à-dire que quand on est allergique, on a une porte de communication entre le nez et les sinus. Il y en a plusieurs sinus, on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus. Cette porte fait 5 mm d'ouverture et quand on est allergique, on a cette porte qui se ferme. Donc l'air ne passe plus dans les sinus et donc ça fait mal. On appelle ça des douleurs de blocage. Ces douleurs de blocage se traitent de manière permanente par un antihistaminique habituellement qu'on donne pendant 2 ans avec des gouttes nasales antihistaminiques qui traitent le problème et exceptionnellement, on ouvre chirurgicalement cette porte pour aérer le sinus. Mais la plupart du temps, c'est un traitement médical. Rhinite chronique est autre chose. Rhinite chronique veut dire que j'ai le nez bouché, j'ai le nez qui me gêne. Il y a 5 diagnostics de rhinite chronique possibles. C'est les déviations de cloison qu'on opère de moins en moins. C'est certains médicaments que l'on prend qui provoquent le nez bouché ou une gêne nasale, comme certains antihypertenseurs. Ce sont les sinusites de diagnostic par un scanner. Ce sont les allergies dont on vient de parler. Et les rhinites vasomotrices, qui est un phénomène un petit peu d'obstruction nasale d'origine émotionnelle.
Et vous, Julia Britney, quand vous avez un problème, justement, un de ces rhumes, vous prenez de façon ponctuelle, au cas par cas, les médicaments ou vous les prenez sur une longue période?
Bon, je ne prends pas sur une longue période, je prends des anti-allergiques presque tous les jours, la période où je suis enrhumée seulement.
Et est-ce que vous auriez les moyens justement de les prendre sur une période un petit peu plus prolongée?
Non.
C'est aussi un problème d'argent?
C'est aussi un problème de moyens, c'est ça?
Ah ouais, non, bien sûr, on comprend bien.
C'est le grand problème d'ailleurs des médicaments. En France, on a la chance d'être pris en charge à 100%. Et malheureusement, les antihistaminiques dans d'autres pays où ce n'est pas pris en charge sont très chers. Et effectivement, c'est un grand problème sociétal.
Oui, parce que quand on a une maladie chronique, bien évidemment, on peut pas faire des bons en prenant ou en arrêtant les médicaments. C'est très compliqué. En tout cas, on vous souhaite une excellente journée à Kinshasa, Julia Britney. On va partir tout de suite pour le Cameroun, pour Yaoundé, où nous sommes en ligne avec Marie Théorine. Bonjour Marie Théorine.
Bonjour Caroline.
Nous sommes à votre écoute. Allez-y.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Oui, ma fille a 3 ans et depuis plus de 3 mois, elle a commencé une rhinite qu'on a soignée et après elle a développé une toux grasse. Depuis plus de 3 mois, donc cette toux grasse-là ne fait que s'accentuer malgré le fait qu'on donne des antibiotiques. Et alors, j'ai déjà peur, j'ai arrêté de donner des antibiotiques parce que j'ai peur que ça affecte son foie et qu'en grandissant, elle me développe une autre maladie. Donc je l'ai laissée là comme ça et continue à tousser, c'est toujours une toux grasse. De temps en temps, le nez coule, mais elle ne chauffe pas.
Marie-Théorine, une question, est-ce que votre fille tousse la nuit?
Oui, elle tousse plus la nuit et plus le matin, mais en journée, non.
Voilà. Alors, c'est toujours la même chose. D'abord, à son âge, 3 ans, d'abord, c'est pas grave qu'elle tousse. Déjà, il faut vous rassurer, car il n'y aura jamais de séquelles. Les sirops ne servent strictement à rien, ainsi que les antibiotiques. Un enfant qui tousse de manière chronique, d'abord, c'est jamais un problème de sinusite, ça n'existe pas à 3 ans. Ce n'est pas les végétations. Et c'est deux causes très classiques qui sont l'acidité qui remonte de l'estomac, ce qu'on appelle un reflux gastro-œsophagien, qui se traite chez l'enfant par le Mopral en sachet ou par l'Inexium, et un phénomène d'allergie, ce qu'on appelle, donc on a dit tout à l'heure, un mouchage postérieur, c'est-à-dire qu'elle décrit très bien qu'elle a des mucosités qui coulent le matin. Donc ça se traite avec un antihistaminique en sirop le matin, par exemple, et un anti-reflux pour l'estomac le soir. Si ça ne suffit pas, on rajoute des traitements avec des baby-allers, comme l'asthmatique, des médicaments qui ressemblent à la ventoline. Et dans tous les cas, on a des traitements qui sont très, très efficaces. Donc il faut vous orienter vers votre pédiatre pour lui expliquer qu'elle est allergique, sans faire de test, qu'elle a de l'acidité, on attaque le traitement. Et elle ira mieux en 15 jours, 3 semaines, 1 mois.
On va voir comme ça les résultats, parce qu'aussi les traitements qui sont utilisés sur les enfants pour ce type de problème, eh bien même si ce n'était pas ça, c'est pas si tragique de les employer.
Ah, de toute façon, c'est sans danger de donner un anti-reflux, un anti-histaminique. En tout cas, c'est moins dangereux que donner des antibiotiques qui ne servent à rien, et qui sont effectivement, qui ne sont pas dangereux, mais qui surtout qui ne servent à rien.
Donc ce conseil, Marie-Thorine, il faut retourner chez le médecin, hein, chez votre pédiatre ou le généraliste, et puis justement avoir la bonne ordonnance pour que votre fille, votre petite fille, puisse passer des nuits plus douces. On vous souhaite une très bonne journée à Yaoundé. Nous partons pour Conakry, pour la Guinée, où l'on retrouve Desportes. Bonjour Desportes.
Bonjour madame.
On est à l'écoute, allez-y.
Bonjour, docteur.
Bonjour.
J'avais quelques questions à poser à docteur concernant le rhume.
Allez-y.
Ma question était de savoir quelles sont les différences, la différence entre la grippe et le rhume. Mm-hmm. Deuxième question, quel est le temps d'incubation d'un rhume? Mm-hmm. Et pourquoi quand on est éternu, comment on appelle ça là?
Quand on est enrhumé?
Vous dites?
Quand on est enrhumé?
Oui, pourquoi quand on est éternu, non, éternu.
Oui.
Oui, quand on éternue?
Oui, bienvenue.
Voilà, je peux répondre. Oui, j'ai compris. Bon, Desportes, la durée d'un rhume d'incubation, c'est entre 2 et 4 jours, première chose. La différence entre la grippe et un rhume, c'est comme si on disait la différence entre le rouge et le noir. La grippe, c'est une infection virale qui ne se traduit par des courbatures, par de la fièvre, et qui peut évoluer rarement en rhume, parfois en quinte de toux, qui guérit d'ailleurs toute seule habituellement chez le sujet en pleine forme. Et le rhume, c'est effectivement une infection virale, mais qui touche le nez. Donc un rhume, on a d'abord mal à la gorge, on est enrhumé, on tousse, on crache. Donc il y a une différence sémiologique, puisqu'un rhume, on n'a habituellement pas de fièvre, ni de troubles de musculaires, de douleurs, alors que la grippe, oui.
Et dans une hiérarchie, bien évidemment, un rhume, c'est beaucoup, beaucoup moins grave qu'une grippe.
Oui, et un rhume dure, évolue, on dit toujours, un rhume guérit tout seul entre une semaine et 6 semaines. Un rhume peut durer 6 semaines. Une grippe peut être dangereuse chez les gens fragiles, les sujets âgés, certains enfants. Je conseille fortement la vaccination contre la grippe, qui est encore... Certains patients sont réticents aux vaccinations. J'en profite pour dire que les gens ont oublié qu'en 1918, il y a eu 15 millions de morts de la grippe espagnole. Ils ont oublié toutes les épidémies qui ont tué beaucoup de gens. Et ils pensent qu'un effet secondaire très médiatisé va les toucher. C'est comme si on pensait qu'un accident d'avion, j'ai un accident d'avion, j'ai 200 morts, je ne vais plus prendre l'avion, c'est dangereux.
Et donc cette vaccination de la grippe qui est prise en charge dans certains pays, dont la France, à partir de l'âge de 60 ans, c'est bien ça, 60 ou 65 ans?
En France, c'est 65 ans, mais on conseille de vacciner tous les gens fragiles, puisqu'il y a des gens qui ont des diabètes, qui ont des maladies graves, il faut être vacciné.
Tous les malades chroniques. Voilà pour ces informations. Vous avez autre chose à rajouter?
Non, une petite réponse pour Desportes, pour sa fille donc, qui est allergique. Donc effectivement, l'allergie donne des éternuements, le nez qui coule, l'obstruction nasale. On ne traite les gens allergiques que s'ils demandent ou s'ils sont gênés.
Il y a des personnes qui vivent avec leur allergie sans nécessiter une prise en charge, pas forcément.
Moi, je connais des gens très proches qui, c'est très mauvais pour ma publicité, qui sont avec leur Kleenex en permanence et qui veulent pas de traitement.
Voilà. Bon, en tout cas, si c'est pas grave, on fait un peu comme on veut. Hein, on va pas être obligé de prendre des cachets tous les jours. Desportes, on vous souhaite une bonne journée à Conakry. On part pour Abidjan, pour la Côte d'Ivoire. C'est Leslie qui est en ligne. Bonjour Leslie.
Allô, bonjour Caroline.
Bonjour Leslie, le docteur Fin est à votre écoute, allez-y.
D'accord, allô, bonjour docteur.
Bonjour.
Moi j'ai été diagnostiquée pour une rhume chronique dans le mois de septembre 2018. Et la préoccupation est la suivante. J'aimerais savoir si l'on peut guérir de la rhinite chronique.
Alors, une question.
Et ensuite,
oui.
Savoir si... oui.
Allez-y, allez-y.
Voilà. Et j'aimerais savoir aussi s'il si, n'y a pas de risque que cela se transforme en chirurgie.
Si ça se traite en chirurgie, si j'ai bien compris, parce qu'effectivement la ligne n'est pas très bonne. Donc je vais juste reformuler votre question. C'est ça ce que vous avez dit ?
Non, en fait, j'aimerais savoir s'il y a des possibilités que cela se transforme en une chirurgie.
Oui, oui.
J'ai un cas plus grave.
Vous parlez des oreilles ? Ou des sinus ?
Une chirurgie.
Alors, je vous coupe tout de suite. Si on vous a fait une radio, les radios, c'est obsolète. Au niveau des sinus, on ne peut pas voir sur une radio si on a une sinusite ou pas. C'est un examen qui est totalement à bannir, on fait un scanner. Les diagnostics de sinusite sont souvent portés en excès, car la plupart du temps, les sinusites se traduisent par des rhumes purulents, par devant et par derrière, plus rarement par des douleurs. Donc vous décrivez, comme on a dit tout à l'heure, une rhinite allergique avec des douleurs de blocage. Et si on veut être chirurgical, effectivement, il y a des chirurgies extrêmement simples qu'on appelle des méatotomies, c'est-à-dire qu'on agrandit en microchirurgie sans hospitalisation la porte de communication avec les sinus. Ça se fait en ambulatoire et ça marche très bien contre les douleurs. Donc c'est soit on traite médicalement, soit effectivement en cas d'échec, on peut faire des microchirurgies qu'on appelle des méatotomies en agrandissant la porte de communication avec le sinus, mais il faut faire un scanner. Rhinite chronique, dernière chose, ne veut pas dire grand-chose. C'est un peu un panier de crabes où on dit beaucoup de choses. Ça veut dire que vous êtes gêné au niveau de votre nez, tout simplement.
Leslie, est-ce qu'un médecin vous a proposé, justement, ce geste chirurgical ?
Non, ce n'était pas moi. Même sur mes recherches internet, j'ai vu qu'il y a cette possibilité.
Donc, je vais retraduire parce que la ligne ne nous aide pas, hein, décidément. On n'a pas de chance avec le téléphone. Vous avez fait des recherches sur internet et c'est comme ça que vous avez vu qu'il pouvait y avoir cette possibilité. Oui. Donc, ce qui a été confirmé par le docteur Gérald Fermier.
Surtout que ce sont des techniques chirurgicales qui existent depuis 35-40 ans et qui ne sont pas des expérimentations.
Voilà, très bonne journée à vous, Leslie. À Abidjan, on retourne en République démocratique du Congo, cette fois Mbujimayi, où nous sommes en ligne avec Adolphe. Bonjour Adolphe.
Bonjour Caroline.
On est à votre écoute, allez-y.
Oui, c'est que j'ai un problème, un mal des gorges, ça fait aujourd'hui, c'est 6 jours. Alors, j'ai eu à m'auto-médiquer avec des sulfatrines, mais malgré tout ça, il n'y a pas une bonne évolution. Et quand je pense à des recherches qu'on fait sur le net, je me dis, est-ce que les germes en cause de ces mal de gorge peuvent avoir des effets néfastes sur le cœur? C'est ça ma crainte, c'est pourquoi j'ai dû intervenir aussi, en savoir plus si vous pouvez m'aider avec...
Alors,
encore faut-il qu'il y ait des germes,
oui,
docteur.
Oui, alors déjà, un mal de gorge isolé sans fièvre, vous pouvez être tranquille, il n'y a aucun risque pour votre cœur. On s'inquiète sur un mal de gorge lorsqu'il dure au-delà de 15 jours. Deuxième information. Et troisième information, la voix cassée est normale ou encore pendant 15 jours. Donc un mal de gorge qui vient inopinément comme ça, c'est la plupart du temps viral. Parfois de l'acidité qui remonte de l'estomac, parfois des douleurs musculaires. Donc déjà, traitez-vous avec des antidouleurs classiques comme le paracétamol ou un anti-inflammatoire. Mais ne vous inquiétez pas pour votre cœur. Et surtout, il ne faut pas prendre d'antibiotiques pour un mal de gorge isolé sans aucun autre signe.
Mais ce que souligne Adolphe, c'est ce qu'on retrouve aussi sur le cas de certaines angines qui peuvent avoir à plus long terme un impact, etc. Mais c'est quand il s'agit d'angines bien spécifiques. Hein.
Alors exactement, les angines bactériennes sont dangereuses. La définition d'une angine est extrêmement précise. Une angine, c'est une infection des amygdales. Donc tout patient qui n'a plus d'amygdales ne peut pas faire d'angine. Et une angine, c'est j'ai beaucoup de fièvre, j'ai une infection des amygdales qu'on peut photographier et envoyer au médecin, mais ça ne dégénère jamais ni en rhume ni en quinte de toux. Et nous avons actuellement des tests quasiment minutes que les pharmaciens d'ailleurs ont en France et qui permettent en faisant un prélèvement de savoir si c'est bactérien ou viral et d'éviter les antibiotiques qui sont malheureusement extrêmement prescrits dans beaucoup de pays pour des raisons un petit peu de rapidité d'examen et pour rassurer le patient.
Voilà Adolphe pour cette réponse, peut-être aussi un des petits remèdes de qu'on connaît bien quand on a mal à la gorge, boisson chaude et miel, ça marche ou c'est un petit peu du placebo ?
Alors, le miel, je donne ça à mes chanteurs, c'est pas mal, ça c'est un peu astringent au niveau des cordes vocales, boisson chaude, enfin tout ce qui rassure est toujours très bon. Le chaud est très bon et certains patients préfèrent le froid, donc tout ce qui fait du bien ne fait pas de mal.
Voilà, très bonne journée à Mbujima et Adolphe. On va partir pour le Bénin d'Assazoumé, c'est la ville où l'on retrouve Saturnin. Bonjour Saturnin.
Oui, bonjour.
On est à votre écoute, allez-y.
Bon, en fait, c'est un souci d'allergie que j'ai depuis un certain moment. Lorsque je me lave avec des produits parfumés ou avec des savons parfumés, lorsque je passe des pommades parfumées, je commence à éternuer et pas avoir des rhumes. Bon, donc je ne sais pas. Bon, je me dis que c'est une allergie parce que ça ce n'est pas la suite d'une maladie. Ça arrive. C'est généralement quand j'utilise des produits parfumés, l'odeur du parfum, c'est ça qui déclenche ce rhume-là.
Alors, Saturnin, déjà, vous pouvez être médecin puisque vous avez fait votre diagnostic vous-même. Je vous félicite. Donc, vous êtes allergique effectivement à la texture de certains parfums. C'est bien sûr absolument sans danger. Ce n'est pas inquiétant, ça vous donne une inflammation du nez. Donc il y a trois solutions, ne plus utiliser ces parfums, première solution. Deuxième solution, mettre un pince-nez, je vous taquine en disant ça. Troisième solution, surtout si vous voulez absolument utiliser ces parfums, il faut vous prendre un antihistaminique à la demande. Donc c'est, on revient toujours à la même problématique, c'est l'environnement qui provoque ces symptômes. Donc soit on évite le contact avec le produit qui déclenche, soit on essaie de traiter en aval en traitant l'hypersécrétion d'histamine engendrée par ce parfum.
On ne va pas être allergique à tous les parfums, ça va être des choses spécifiques qui vont déclencher ça ou finalement à la fin on va réagir de façon un petit peu généralisée?
L'allergie c'est totalement imprévisible, on peut être allergique à un parfum pendant un an et puis après ça va changer, donc c'est totalement imprévisible. Mais ce n'est pas dangereux d'être allergique à un parfum. On peut changer de parfum et essayer de voir si un autre ne déclenche pas les mêmes symptômes.
Voilà pour cette réponse, Saturnin. Très bonne journée au Bénin. On part pour le Burkina, pour Koudougou. On le retrouve, Auguste. Bonjour, Auguste.
Bonjour, Caroline.
Nous sommes à votre écoute. Hein. Le docteur Gérald Fin va vous répondre. Allez-y.
Ok, bonjour, docteur.
Bonjour.
Voilà, je m'appelle Auguste. Alors, je souffre de sinusite il y a bientôt 40 ans maintenant. J'ai fait la radiographie, le scanner, et on a détecté la sinusite faciale et maximaire gauche.
Du côté
donc,
gauche,
que d'un côté. Voilà, j'ai fait différents traitements, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'amélioration.
Ça se traduit par des rhumes, par une mauvaise odeur dans votre nez?
Oui.
Que du côté gauche?
Et pas seulement du côté gauche. Et j'ai dû faire un traitement au niveau de l'hôpital.
Oui, oui, oui. D'accord.
Et après, bon, j'ai interrompu pour faire un traitement à l'indigénant. Et ça s'est traduit par une inhalation d'une solution.
Oui, oui, oui.
Et ça entraîne une évacuation d'une muqueuse. Une muqueuse vraiment nauséabonde.
Oui.
Donc, ça fait que ça me donne des vertiges.
Mmh.
Et je ne peux pas tenir...
Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes.
Okay. Ok, je ne peux pas tenir la parole pendant 30 minutes. Ça entraîne des vertiges. Et présentement, je suis obligé de rouler avec un casque.
Alors, ce que vous décrivez, Auguste, excusez-moi de vous couper. D'abord, vous décrivez effectivement probablement une vraie sinusite, car cette odeur nauséabonde est la conséquence de l'absence d'oxygénation des sinus. Donc, il faudrait faire de la microchirurgie par un chirurgien compétent au Burkina.
Oui.
Donc il faut faire une méatotomie qui vous guérira probablement de cette sinusite. Je suis étonné qu'on ne vous l'ait jamais proposé. La deuxième chose que vous décrivez, c'est indépendant. Je ne peux pas vous interroger puisqu'on n'a pas le temps, mais ce que vous décrivez comme vertige, et c'est peut-être pas des vertiges, mais une instabilité, car la définition d'un vertige est extrêmement stricte, ça doit tourner, sinon c'est une instabilité, c'est autre chose, et je ne peux pas, à distance, vous donner des conseils objectifs sur ce malaise qu'il faudrait explorer.
Est-ce que vous pensez, Auguste, que ce geste chirurgical, il est accessible, il vous est accessible? C'est possible d'aller peut-être à Ouaga pour consulter un ORL, pour savoir s'il y a un chirurgien ORL qui pourrait vous prendre en charge?
Mais c'est possible, je me dis. Mais déjà, avec ce que j'ai enduré comme souffrance... Alors, c'est pas évident la chirurgie.
Non, non, c'est une chirurgie quand c'est bien fait, et c'est heureusement maintenant extrêmement bien fait, c'est totalement indolore, Ça se fait en ambulatoire, il n'y a pas de mèche, il n'y a pas de drain, et on sort une heure à deux heures après.
Ça veut dire que vous serez anesthésié, une opération, et le soir, vous rentrez à la maison.
Oui, c'est ça, oui, enfin, le même deux heures après. Alors, je ne sais pas au Burkina comment ça se passe, mais un bon chirurgien, bon, c'est des chirurgies qui sont assez simples, et il n'y a pas de séquelles.
Donc, c'est peut-être un encouragement pour enfin trouver la solution à votre problème, Auguste.
Vous me rassurez, on peut en guérir définitivement?
Ah bah une sinusite, si c'est une sinusite et que c'est chirurgical, on est guéri définitivement. Il suffit d'ouvrir la porte pour nettoyer, la porte ne se refermera plus, donc vous n'aurez plus d'infection.
Donc, merci bien.
Eh ben, on vous souhaite une excellente journée, Auguste, à Koudougou, au Burkina. On prend cette dernière auditrice en ligne. C'est Divine qui est au Congo Brazza, précisément à Brazzaville. Bonjour, Divine.
Bonjour, Caroline.
On vous écoute, allez-y.
Oui, en fait, moi, mon problème, c'est que j'ai un rhume chronique. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et j'ai ce rhume depuis pratiquement mes 8 à 9 ans. Et en fait, tout me fait éternuer. Les odeurs, la poussière, le changement de température. Et j'ai également tout le temps le nez bouché. Mmh. Donc, j'ai consulté plusieurs médecins. Et le dernier m'avait diagnostiqué une rhinite allergique. Mais la cause de l'allergie, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis allergique à tout.
Et vous prenez un traitement pour cette allergie?
J'ai suivi un traitement que le médecin avait qualifié de traitement de fond. Il m'avait prescrit de l'aérus et de quelques gouttes nasales pour m'aider à mieux respirer.
Et vous avez arrêté ce traitement?
Oui, le traitement a été juste pour une durée de 2 mois.
Vous étiez bien pendant ces 2 mois?
Oui, j'étais bien. Je respirais normalement. Je n'avais pas le nez bouché.
Et est-ce que vous avez les moyens, Divine, de prolonger ce traitement, de le prendre au long cours pour vous sentir mieux sur une plus longue durée?
Oui, mais moi, je me demandais s'il n'y avait pas une solution plus définitive, parce que je ne veux pas être contaminée.
Je vais vous répondre, Divine. L'allergie touche une personne sur deux. On a fait un algorithme mathématique dans un siècle, 4 générations, toute la population du globe sera allergique. Donc, les gens allergiques, vous serez toute votre vie allergique et ce n'est pas une maladie grave. C'est, on a dit tout à l'heure, une hyper-réactivité de votre organisme à votre environnement. C'est l'air qu'on respire, les aliments qu'on mange, les vêtements qu'on porte, l'émotion, l'effort qu'on produit, qu'on ressent. Et on a à ce moment-là une hyper-sécrétion d'histamine. Les bilans allergologiques et les désensibilisations ne marchent pas. Et donc, il faut prendre ces antihistaminiques en moyenne pendant 2 ans. Quand vous arrêterez, vous irez beaucoup mieux, car vous aurez une diminution naturelle de l'histamine par votre corps. Et à partir de là, vous les prendrez à la demande. Donc, rechercher à quoi on est allergique ne sert pas à grand-chose. Le but du traitement qui est sans danger, c'est de vous diminuer, d'arrêter vos symptômes. Et après, vous verrez qu'en prenant régulièrement pendant 2 ans tous les jours, quand vous arrêterez, vous irez beaucoup mieux et vous ferez comme tous les gens allergiques. À ce moment-là, vous en prendrez que de temps en temps. Donc, c'est une maladie chronique pas grave. Savoir à quoi on est allergique ne sert pas à grand-chose, car désensibiliser est extrêmement décevant.
Voilà, Divine, pour cette réponse. Merci beaucoup et très bonne journée à Brazzaville. Et tout de suite, nous allons partir pour la Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver en ligne d'Abidjan, professeur Marie-Josée Tanoano, bonjour.
Bonjour madame.
Et vous êtes chef de service ORL ambulatoire pédiatrique à l'hôpital mère-enfant de Bingerville, présidente de la société ivoirienne d'ORL. Tout à l'heure, en début d'émission avec le docteur Gérald Fin, on disait beaucoup de ces affections ORL se déclarent pendant l'enfance. Professeur Tanoano, quelles sont justement ces maladies ORL les plus fréquentes pour lesquelles les enfants, accompagnés de leurs parents bien sûr, viennent en consultation?
Oui, merci. En fait, à Abidjan, surtout chez l'enfant, nous avons en première ligne les infections, les maladies infectieuses de l'enfant qui sont fréquentes, qui sont normales, puisque l'enfant s'habitue à son environnement, donc il aura beaucoup d'infections respiratoires, ORL, qui sont l'ORL étant la première porte d'entrée, en fait, de l'environnement, on va dire, le premier contact de l'environnement avec l'organisme. Donc, nous avons beaucoup de rhinopharyngites, et leurs complications, donc les sinusites aiguës beaucoup moins, les otites moyennes aiguës en grand nombre, Et ces dernières années, nous avons quand même remarqué une part importante de pathologies inflammatoires, notamment tout ce qui est en rapport, je viens de l'entendre, avec la pathologie allergique. Chez l'enfant, nous avons quand même pas mal d'affections, de rhinites allergiques, récidivantes ou persistantes, de laryngite, etc. Donc, en premier lieu, pour nous, c'est vraiment les pathologies infectieuses, ensuite la pathologie inflammatoire, et puis également tout ce qui est pathologie fonctionnelle de l'enfant, les troubles du langage, les troubles de l'audition.
Alors justement, professeur Tanoano, est-ce qu'il arrive qu'à l'occasion de consultations, les parents viennent pour, pensent-ils, des choses assez bénignes, et bien que vous diagnostiquiez des troubles ORL beaucoup plus profonds ?
Oui, souvent, les patients, ils viennent parce que, justement, ils s'inquiètent. L'enfant a le nez qui coule, il respire mal, et finalement on se rend compte qu'il y a une pathologie obstructive par derrière, c'est-à-dire qu'il y a des végétations adénoïdes qui obstruent les voies respiratoires, c'est ce qui est assez fréquent. Ou alors ils sont amenés par les pédiatres, réorientés par les pédiatres, parce que l'enfant a un petit retard de langage. Quelquefois, il attribue à... C'est normal, les autres enfants de la famille ont parlé un peu tard. Et puis finalement, on se rend compte qu'il s'agit en fait d'une véritable surdité qui s'est installée depuis la naissance et qui empêche l'enfant en fait de développer son langage.
Surdité qui s'est installée, est-ce qu'il existe justement certaines complications d'affection ORL, professeur Tanoano, qui peuvent altérer, abîmer à long terme l'audition et entraîner là encore des surdités ?
Oui, il en existe. Les infections ORL mal prises en charge chez l'enfant peuvent se compliquer justement au niveau de l'appareil auditif. Je prends l'exemple des rhinopharyngites, et donc des infections banales en griffe qui dérèsent les fosses nasales et le rhinopharynx. Sachant que l'oreille et le cavum communiquent, les infections qui sont mal traitées, qui se compliquent déjà par cette hypertrophie des amygdales qu'il y a dans cette région. Donc, ils vont obstruer les voies d'aération naturelle de l'oreille. On va aboutir à ce qu'on appelle un épanchement de liquide dans l'oreille, l'otite séromuqueuse. Et l'otite séromuqueuse elle-même peut être une complication et elle peut se compliquer d'une surdité. Par ailleurs, on peut avoir des infections de l'oreille, ou même des infections ORL en général, qui seront traitées, peut-être mal traitées, peut-être abusivement traitées par certains antibiotiques autotoxiques, et on pourrait avoir des complications à type de surdité.
Alors
en
juste...
fait, on peut avoir
oui. Pardon, excusez-moi.
Des maladies générales, notamment les méningites, les oreillons, donc les parotidites, qui peuvent avoir des complications directes au niveau du nerf auditif et donc être responsable de surdité également.
Alors justement, en termes de messages de sensibilisation et de prévention, là on s'adresse aux parents justement pour éviter d'en arriver à ces situations. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message, professeur Marie-Josée Tanoano ?
Pour nous, la première chose à faire passer comme message, c'est déjà de faire connaître la spécialité ORL. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas assez nombreux. Et certains parents ignorent même ce que c'est que l'ORL. Deuxièmement, les médecins pédiatres ou les médecins généralistes, n'ayant pas toujours de collaboration avec les médecins ORL, ne les orientent pas systématiquement ou dès qu'il y a des problèmes qui dépassent un peu leurs compétences, ils n'ont pas ce réflexe. Peut-être pas parce qu'ils ne le savent pas, mais parce qu'il n'y a pas d'ORL à proximité, vu que nous ne sommes pas très nombreux. Et enfin, par rapport aux maladies qui touchent le nez, la gorge et l'oreille de façon globale, il faut penser à consulter un ORL, un médecin ORL qui pourra faire de la prévention, vous informer sur les conséquences de tel ou tel acte et au besoin faire des traitements appropriés pour les affections courantes de l'enfant notamment.
Merci. On vous écoute pour la conclusion.
Pour la conclusion, d'accord. Nous essayons aussi de faire passer le message, surtout par rapport à la surdité qui devient de plus en plus un gros problème en Côte d'Ivoire. Et nous essayons de faire passer le message du dépistage systématique, que ce soit à la naissance, en période préscolaire ou alors plus tard lorsque ces dépistages n'ont pas été faits, pour surveiller un peu l'audition de l'enfant
et ce qui nous permet à ces occasions-là aussi de passer des messages de sensibilisation, d'information sur les causes de la surdité.
Merci. Merci beaucoup, hein, professeur Marie-Josée Tanoano. Je rappelle que vous êtes présidente de la Société ivoirienne d'ORL.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Prévention, sensibilisation, docteur Gérald Fay, on arrive à la dernière partie de cet échange. On a bien compris avec ce qui vient d'être dit que l'ORL, c'est vraiment à la croisée des chemins de la médecine, ça touche un petit peu à tout, c'est essentiel.
L'ORL touche le cerveau, touche le nez, les poumons, l'estomac. Et surtout, l'ORL s'occupe de 5 d'organes de la communication, qui est le nez, qui est l'oreille, qui est l'équilibre, qui est l'audition. Et Madame Tonono a parlé, effectivement, c'est embêtant dans certains pays, c'est que les enfants, on détecte bien les troubles visuels, faut détecter les troubles auditifs. C'est à la fois à la naissance, les auto-émissions qui sont des examens systématiquement faits en France assez récemment, et surtout les otites séreuses. Un enfant sur deux, il faut savoir, en dessous de 5 ans, a un jour ou l'autre une otite séreuse, qui est une maladie qui ne fait pas mal, mais qui se traduit par des troubles auditifs qui peuvent être permanents ou intermittents et entraîner des troubles de scolarité très importants.
On peut repérer ça aussi dans le comportement. Quand un enfant réagit moins, on peut se demander, dire qu'il est un peu replié sur lui-même, et ça peut être un trouble de l'audition.
Alors, il vaut mieux pas le faire soi-même, mais c'est vrai que chez les enfants de 3-4 ans, si on appelle et que l'enfant ne répond pas, il y a forcément quelque chose. Après, c'est surtout le rôle de certains pédiatres formés et des ORL de faire le diagnostic.
Alors, une question un petit peu qui peut paraître un petit peu banale, mais quand même c'est important parce que beaucoup de personnes sont concernées. On le voit d'ailleurs quand on fait des émissions sur le sommeil, cette question revient régulièrement. Ronflement, nez, il y a une association entre les deux. Comment et pourquoi ronfle-t-on ?
Alors ça, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'association nez-ronflement. Le ronflement est tout simplement un problème anatomique. Ce sont des patients qui ont la base de langue trop près du pharynx. Donc ça fait que l'écoulement de l'air est tourbillonnant. On appelle ça le phénomène de Bernoulli. Et ça fait vibrer tous les organes au-dessus et en dessous. La luette, la base de langue, l'épiglotte, les cordes vocales, le pharynx. Donc les gens qui ronflent, soit ils ronflent, ils gênent l'entourage. Ça se traite maintenant quasiment plus par chirurgie, mais par orthèse d'avancée mandibulaire. On avance la langue et on peut avoir effectivement des ronflements avec apnée. Donc ça, on fait des tests du sommeil pour vérifier ça et on traite ça avec des appareils qu'on met dans le nez, qui sont des gens de Sarbacane, qui envoient de l'air sous pression, qui repoussent la langue, ou des orthèses d'avancée mandibulaire. Je parle un peu vite, mais c'est pas grave.
Et le
nez peut être un facteur d'aggravation, mais c'est jamais vraiment la cause. Donc à une époque, j'ai connu cette époque, puisque avec mon patron, le professeur Chouard à Saint-Antoine, on opérait les nez, les luettes et les amygdales, et on avait de très mauvais résultats. On est maintenant de moins en moins chirurgical.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Docteur Gérald Fay, je rappelle que vous êtes chirurgien otorhino-laryngologiste à Paris. On passe tout de suite à une question reçue sur la page Facebook de Priorité Santé. Cette question, elle est posée par Amadou. Il s'interroge sur les conséquences d'une abstinence prolongée. Il donne bien sûr quelques indications sur son cas. Il indique qu'il a 23 ans. Il indique qu'il est de confession musulmane. Et il indique aussi qu'il n'a jamais fait l'amour. Catherine, qu'est-ce que vous pouvez répondre donc, docteur Solano, à Amadou? Conséquences de cette abstinence prolongée.
Alors, quand on commence plus tard sa vie sexuelle que la moyenne, ça n'entraîne aucun problème particulier, ni pour le désir, ni pour l'érection, et ni pour le plaisir sexuel. Donc, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème ? Parce que le corps, en fait, il s'entraîne toujours pour faire l'amour, même si on n'a pas de rapport sexuel. Je m'explique. Pendant la nuit, grâce aux érections, pendant la nuit et le matin, aussi au réveil, eh bien, le corps s'entraîne à avoir des érections et à fonctionner. Et c'est la même chose pour les femmes. Le corps s'entraîne à avoir des lubrifications vaginales pendant la nuit, de manière à être prêt au moment du premier rapport sexuel. Il marche très bien. Et aussi, quand on a une interruption des rapports sexuels pendant sa vie, quand on recommence, eh bien, le corps marche parce qu'il s'entraîne la nuit quand on dort.
Alors, est-ce que tout de même retarder la première fois, ça entraîne des différences avec quelqu'un qui commencerait une vie sexuelle de façon plus précoce ?
Disons que la seule chose, c'est que quand on commence sa vie sexuelle, au début, un homme a plutôt tendance à avoir des éjaculations précoces. Mais ça sera vrai aussi si on commence à 17 ans ou si, comme Amadou, on commence après 23 ans. Donc ça, c'est pas trop une question d'âge, c'est une question qu'au début, ça fait ça à presque tous les hommes, tout simplement parce que c'est comme s'il y avait une espèce d'énergie sexuelle qui s'accumulait et qui, lors du rapport sexuel la première fois, bah, va se décharger, comme on dit entre guillemets, et du coup, bah, ça va aller plus vite. Mais c'est vrai aussi pour un homme de 30 ans qui a pas eu de rapport sexuel depuis 2 ans. ans. Donc c'est pas spécifique à la première fois. Et je tiens à dire qu'en général, ça s'améliore après l'éjaculation précoce quand on a des relations sexuelles régulières pendant un certain temps.
Voilà, merci beaucoup pour ces réponses, docteur Catherine Solano, sexologue. En ligne de Côte d'Ivoire avec nous, c'est Princesse. Princesse, bonjour.
Bonjour.
On écoute votre question, le docteur Catherine Solano vous écoute.
D'accord, bonjour docteur Solano.
Oui, bonjour Princesse.
Je voudrais savoir comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir de mal la première fois, le premier rapport sexuel, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir quelles sont les dispositions à prendre, peut-être des médicaments, à prendre pour ne pas sentir les douleurs.
Alors, cette première question de Princesse, est-ce que c'est possible de faire quelque chose, en fait, hein, pour se préparer pour une première relation sexuelle?
Alors, la première fois, on entend souvent dire qu'on a mal. Ça peut être vrai, mais c'est pas toujours le cas. Il y a à peu près 30% des femmes, c'est-à-dire une femme sur trois, qui n'a pas du tout mal, qui ne saigne pas, et donc on n'a pas toujours mal. D'autre part, il faut savoir que c'est vrai que l'hymen peut se déchirer la première fois, mais c'est pas une douleur atroce normalement parce que l'hymen, il est fait pour se déchirer, il est prévu pour ça. C'est pas comme si on déchirait un endroit du corps qui n'est pas fait pour ça. Donc c'est pas du tout quelque chose, c'est pas une opération chirurgicale la première fois.
C'est pas une blessure.
Voilà, exactement. Donc cela dit, on peut se préparer si on a peur d'avoir mal. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, ce qui est bien, c'est d'utiliser des tampons pendant les règles parce que ça peut élargir l'ouverture de l'hymen. Parfois, on peut même le déchirer un petit peu, ce qui fait qu'on a des chances d'avoir beaucoup moins mal la première fois. Pour ça, faut utiliser des tampons les plus mini possibles et puis si ça passe bien, des normaux et puis des tampons super. Mais il faut dire que là, ça va avoir peut-être tendance à déchirer l'hymen. Donc, une fille qui voudrait pas déchirer son hymen avant, il faut pas faire ça. Donc, il faut pas utiliser de tampon. Donc, ça, c'est un choix. Il y a des filles qui veulent absolument ne pas avoir mal la première fois et qui se disent, ça m'est égal si pendant mes règles, je me fais un petit peu mal parce que on a moins peur quand on se fait mal soi-même. Même si ça fait un petit peu mal le premier tampon.
On contrôle.
Bon, on contrôle, on arrête si on a trop mal, voyez.
Alors là, c'est ce qui dépend de nous, Catherine Solano. La question peut se poser aussi sur les agissements, sur les gestes du partenaire.
Voilà, parce que ce qui est important, c'est pas seulement d'avoir un hymen assez souple, élastique ou déjà élargi, c'est le partenaire. C'est-à-dire que pour ne pas avoir mal, il faut avoir une bonne lubrification. C'est-à-dire que ça glisse bien pour faire rentrer le pénis beaucoup plus facilement. Et comment faire pour avoir une bonne lubrification? Il faut beaucoup de préliminaires. Il faut que la jeune femme soit en confiance avec son partenaire parce que si elle a peur, eh bien, elle va être bloquée, elle va être dans la peur, elle va pas être dans le désir et l'excitation, donc elle aura pas de lubrification. Et si le vagin, il est pas humide, et qu'il est un petit peu sec, ça va faire mal. Et donc, c'est hyper important quand on est une femme d'inciter son partenaire à faire beaucoup de préliminaires parce que malheureusement, maintenant, beaucoup de jeunes hommes regardent de la pornographie. Ils ont l'impression qu'on peut aller droit au but et que ça va marcher. Ben non, il faut vraiment utiliser tout le temps des caresses, des baisers avant pour que la femme ait du désir et n'ait pas peur et soit en confiance.
Merci beaucoup Princesse et excellente journée à vous à Abidjan. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui réalise et fabrique votre émission. C'est Oussama Ki, Ophélie Lassen, Didier Bleu, Laurent Hérault. On se retrouve demain dès 9h10 temps universel.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui protège vos biens, vos proches et votre voisinage comme tout bon locataire ou propriétaire. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.